Mes chers amis, puisque nous sommes dans ce temps de la Passion, j'ai pensé qu'il nous serait utile à tous de réfléchir et de méditer un peu sur les saintes plaies de notre Seigneur. C'est une chose qui peut paraître un petit peu dérisoire aux yeux du monde, mais il me semble que dans le contexte actuel, c'est plus que jamais valable et plus que jamais efficace surtout. Et je suis tombé dernièrement sur un petit livre qui rapportait l'origine de cette dévotion demandée par notre Seigneur lui-même. Vous savez que la plupart des dévotions et des fêtes en l'honneur de notre Seigneur ont été demandées par lui-même dans des apparitions à des âmes privilégiées. Par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur. C'est Jésus qui l'a demandé à Sainte Marguerite Marie, une religieuse de la Visitation à Paray-le-Monial. La fête de Dieu, ça a été demandé par notre Seigneur lui-même à une religieuse, la bienheureuse Julienne, qui priait à Liège devant le Saint-Sacrement. La dévotion à la Sainte Face, à la tête sacrée de Jésus, également notre Seigneur qui a demandé cela. Et la dévotion au Saint-Plaît a été demandée au siècle dernier par notre Seigneur à une religieuse qui habitait pas très loin d'ici, à Chambéry, sœur Marie-Marthe Chambon. Et pour vous rassurer un petit peu sur le sérieux de cette dévotion, qui n'est pas une dévotionnette, on peut dire un des plus grands théologiens de notre époque, de l'époque de ce XXe siècle, le père Garrigou-Lagrange, l'a beaucoup recommandé. Le Seigneur, dit-il, fit connaître à cette humble religieuse les trésors infinis renfermés dans ses plaies et l'importance de les offrir sans cesse à Dieu le Père pour les besoins de l'Église, la conversion des pécheurs, la délivrance des âmes du purgatoire, et il lui donna la mission spéciale de rappeler aux âmes la dévotion à ses saintes plaies. Cette dévotion ne convient-elle pas particulièrement à notre époque si troublée? N'est-ce pas le moment de déverser sur ce pauvre monde bouleversé les mérites infinis du sang rédempteur? Et le père Garrigou-Lagrange poursuit. Après avoir longuement analysé les chemins par lesquels le Seigneur conduisit Marie-Marthe au sommet de la contemplation du mystère de la croix, la fit participer à sa crucifixion en imprimant dans sa chair les sacrés stigmates et l'introduisit dans les plus hauts états mystiques, le Père ajoutait, au moment où l'esprit d'indépendance absolue, d'orgueil poussé jusqu'à l'athéisme, cherche à se répandre dans le monde entier et dans les pays les plus chrétiens, le Seigneur suggère à beaucoup d'âmes intérieures de prier comme le faisait l'humble sœur en offrant sans cesse les saintes plaies de Jésus. Il écrivait cela dans La Vie spirituelle, le 1er novembre 1937. Qu'est-ce qu'il dirait 50 ans après? Ben, il dirait que ces erreurs, cet esprit d'indépendance, cet orgueil poussé jusqu'à l'athéisme, a atteint des proportions incroyables jusqu'à l'intérieur même de l'Église. Et le mystère même de la croix, le mystère du sacrifice du Christ, et par conséquent, tout ce qui va avec, la dévotion au Sacré-Cœur, aux saintes plaies, tout cela a été pratiquement mis de côté. Vous venez de faire le chemin de la croix, mais il n'y a plus beaucoup qui font le chemin de la croix aujourd'hui. Tout cela, c'est considéré comme désuet. On parle beaucoup plus facilement de résurrection que de croix. Comme si on pouvait arriver un jour à la résurrection sans passer par la croix. Ce n'est pas possible. Si nous voulons connaître la gloire de la résurrection, il nous faut prendre la croix, prendre le même chemin que Jésus. Vous savez d'autre part que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis a décidé cette année de faire un effort tout particulier pour introniser le Sacré-Cœur dans les familles. Et un Sacré-Cœur, c'est quoi? C'est une des saintes plaies. C'est la plus belle, la plus grande, la plaie du côté. Et c'est capital, justement, pour obtenir la sanctification de la famille et la protection du Sacré-Cœur sur elle. Vous savez combien la famille est attaquée aujourd'hui. Quelques mots sur cette religieuse. Elle s'appelait Françoise Chabon. Elle naquit dans une famille chrétienne de cultivateurs, au hameau de la Croix-Rouge, au-dessus de Chambéry, le 6 mars 1841. Elle fut baptisée le même jour. Et de très bonne heure, notre Seigneur s'est révélé à elle. Notre Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et il choisit régulièrement des âmes privilégiées à qui il confie une mission particulière. À peine Françoise avait-elle 9 ans que sa tante l'ayant conduite un vendredi saint à l'adoration de la croix, le Christ s'offrit à ses regards, déchiré, ensanglanté comme au calvaire. Oh, dans quel état il était, devait-elle dire plus tard. Ce fut là une première révélation de la passion du Sauveur qui devait tenir tant de place dans sa vie. Mais l'horreur de sa vie apparaît surtout favorisée par les visites de Jésus enfant. Le jour de sa première communion, il vint à elle visiblement. Et depuis lors, à chacune de ses communions, jusqu'à sa mort, ce sera toujours l'enfant Jésus qu'elle verra dans la Sainte Hostie. Il devient l'inséparable compagnon de sa jeunesse, la suit au travail, dans les champs, converse avec elle le long du chemin, la ramène à la chaumière paternelle. Nous étions toujours ensemble. Oh, que j'étais heureuse, j'avais le paradis dans le cœur, dira-t-elle vers la fin de sa vie en se rappelant ses souvenirs. Le curé de la paroisse, bien sûr, parce que les curés ont quand même encore quelques flairs, quelques qualités pour déceler l'œuvre du Saint-Esprit dans les âmes, s'est aperçu qu'il avait là affaire à quelqu'un qui recevait de très grandes grâces. Il a cultivé cette âme avec soin. Il s'est dit, ça, c'est une vocation religieuse. Il la conduisit au monastère de la Visitation de Chambéry. Et effectivement, à l'âge de 21 ans, elle entra à la Visitation, dans le même couvent que Sainte Marguerite Marie, au Paray-le-Monial, dans le même couvent fondé par Sainte Jeanne de Chantal avec Saint François de Sales. 2 ans plus tard, le 2 août 1864, elle prononça ses vœux et prenait place définitivement sous le nom de Sœur Marie-Marthe parmi les religieuses du Voile Blanc. À l'extérieur, il n'y a rien qui pouvait faire remarquer qu'elle était une âme privilégiée. C'était en elle tout intérieur. Et elle avait même à l'extérieur des choses qui paraissaient assez médiocres. Elle avait des manières et un langage plutôt rustique, une intelligence assez pauvre. Elle ne savait ni lire ni écrire. Avouez qu'en fait, d'instruction, c'est pas fameux. Un tempérament très vif et tenace. Ses sœurs, ses compagnes disaient volontiers, « Oh, pour une sainte, c'était une vraie sainte, mais une sainte parfois exerçante. » Elle le savait bien. Et elle se plaignait parfois à Jésus en disant qu'elle avait trop d'imperfections. « Tes imperfections, lui répondait Jésus, sont la plus grande preuve que tout ce qui se passe en toi vient de Dieu. Je ne te les enlèverai jamais. Elles sont la couverture qui cache mes dons. Tu as bien envie de te cacher, j'en ai encore plus envie que toi. » Alors bien sûr, elle s'est ouverte de toutes ces choses à ses supérieurs, à son confesseur, bien sûr. Et finalement, la supérieure était obligée de se rendre à ce qui se passait dans cette religieuse, d'autant qu'elle était tellement obéissante. La mère supérieure disait d'elle, « L'obéissance est tout pour elle. La candeur, la droiture, l'esprit de charité qui l'anime, sa mortification, par-dessus tout son humilité sincère et profonde, nous paraissent les plus sûrs garants de la conduite de Dieu sur cette âme. Plus elle reçoit, plus elle entre dans un vrai mépris d'elle-même. étant presque habituellement écrasés par la crainte d'être dans l'illusion. Dociles aux avis qui lui sont donnés, les paroles du prêtre et de la supérieure ont une grande puissance pour lui rendre la paix. Ce qui nous tranquillise surtout, c'est son amour passionné pour la vie cachée, son besoin impérieux d'échapper à tout regard humain et la frayeur qu'elle a qu'on s'aperçoive ce qui se passe en elle. Les deux premières années de vie religieuse s'écoulent à peu près normalement, à part un don d'oraison peu commun, un recueillement perpétuel, une faim et une soif de Dieu toujours croissantes, rien de vraiment particulier qui fasse prévoir des choses extraordinaires. Mais en septembre 66, elle commence à être favorisée de fréquentes visites de Notre Seigneur, de la Très-Sainte-Vierge, des âmes du purgatoire et des saints. Et Jésus crucifié lui offre presque chaque jour à contempler ses plaies divines, tantôt resplendissantes et glorieuses, tantôt livides ou ensanglantées, en lui demandant de s'associer aux douleurs de sa sainte passion. Je vous fais remarquer en parenthèse que Notre Seigneur a gardé, après sa résurrection, les saintes plaies. Glorieuses. Et il les montre à saint Thomas qui ne voulait pas croire. Bien Thomas, mets tes doigts dans les trous. Ne sois plus incrédule, aie la foi. Et Jésus a gardé, a conservé dans son corps glorifié ses saintes plaies. Évidemment, Jésus va lui demander alors différentes choses qui sont peu communes. Mais chaque fois, elle obtient la permission de ses supérieurs pour faire pénitence, pour porter jour et nuit un rude cilice, pour se tresser une couronne d'épines aiguës qui ne lui permet plus de reposer la tête sans ressentir une vive souffrance. Jésus exige qu'elle fasse le sacrifice de son sommeil. Elle veille seule pendant que toutes les autres dorment auprès du Saint-Sacrement. Et les personnes qui reçoivent de grandes grâces, de grands privilèges, doivent payer le prix. Jésus leur donne les forces, bien sûr, mais souvent il nous arrive peut-être d'envier certaines âmes privilégiées qui peuvent avoir des grâces semblables. Mais si on savait tout le prix qu'elles doivent payer, toutes les pénitences qu'elles doivent faire, on aurait peut-être moins envie de les envier. Alors c'est surtout en 1867, au mois de septembre, pendant 3 jours, qu'elle a reçu des grâces exceptionnelles. Toute la splendeur des cieux vint illuminer son humble cellule, les 26, 27 et 28 septembre 1867, où descendit la Trinité Sainte. Dieu le Père, lui présentant Jésus dans une hostie, lui dit, « Je te donne celui que tu m'offres si souvent. » Et il la communia. Puis il lui dévoila les mystères de Bethléem et de la croix, éclairant son âme de vive lumière sur l'incarnation et la rédemption. Et tirant ensuite de lui-même son esprit comme un rayon de feu, il lui en fit don. Il y a là-dedans, affirma-t-il, la lumière, la souffrance et l'amour. L'amour sera pour moi, la souffrance, la lumière pour découvrir ma volonté, la souffrance pour souffrir de moment en moment, comme je veux que tu fasses. Et le dernier jour, l'invitant à contempler dans un rayon éblouissant de lumière la croix de son Fils, le Père Céleste lui donna de mieux comprendre les plaies de Jésus pour son bien personnel. Et en même temps, dans un autre rayon, partant de la terre pour aboutir au ciel, elle vit comme un appel à faire valoir les mérites des plaies de Jésus pour le monde entier. Alors là, on a affaire donc à une chose qui est peu commune, c'est la Trinité Sainte qui s'empare de cette âme et qui la choisisse pour faire connaître une dévotion particulière, la dévotion aux saintes plaies. Pour son bénéfice personnel, c'est vrai, mais aussi pour le monde entier. Alors tout cela, bien sûr, a beaucoup intrigué les supérieurs, les prêtres spécialistes qu'elles ont consultés. Elles ont fait venir des éminents jésuites, des évêques, des chanoines, etc., quoi, qui ont procédé à un examen approfondi. Et finalement, la supérieure, Mère Marie-Thérèse Génie, je déclare, nous déposons ici, en présence de Dieu et de nos saints fondateurs, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, par obéissance et le plus exactement possible, ce que nous croyons nous être envoyés du ciel par une prédilection tout amoureuse du divin cœur de Jésus pour le bonheur de notre communauté et pour le bien des âmes. Dieu semble avoir choisi dans notre humble famille l'âme privilégiée qui doit renouveler en notre siècle la dévotion aux saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre humble petite sœur domestique, sœur Marie-Marthe Chambon, que le Sauveur gratifie de sa présence sensible. Il lui montre chaque jour ses divines plaies, afin qu'elle en fasse valoir constamment les mérites pour les besoins de la Sainte Église, la conversion des pécheurs, la nécessité de notre institut et surtout le soulagement des âmes du purgatoire. Jésus en fait son jouet d'amour et la victime de son bon plaisir, et nous, pleines de reconnaissance, nous éprouvons à chaque instant l'efficacité de ses prières sur le cœur de Dieu. Alors voilà, sœur Marie-Marthe, approuvée, si vous voulez, par ses supérieurs. Alors maintenant, elle entre en plein dans le rôle que Jésus lui donne. Une chose me fait de la peine, disait Jésus, c'est qu'il y a des âmes qui regardent la dévotion à mes plaies comme étrange, comme méprisable, comme une chose qui ne convient pas. Mais c'est pour cela qu'on l'oublie, cette dévotion. Au ciel, j'ai des saints qui ont une grande dévotion à mes saintes plaies, mais sur la terre, il n'est presque plus personne qui m'honore de cette manière-là. Le 2 octobre 1867, elle assiste à une prise d'habit. Lorsque la voûte des cieux s'entr'ouvrant, elle vit s'y dérouler la même cérémonie dans une splendeur bien autre que celle de la terre. Toute la visitation du ciel était présente, c'est-à-dire toutes les sœurs visitandines qui étaient au ciel étaient présentes. Les premières mères, se tournant vers elle, comme pour lui annoncer une bonne nouvelle, lui dire, joyeuse, « Le Père éternel a donné à notre saint ordre son Fils en trois manières. Premièrement, Jésus-Christ, sa croix et ses plaies, à cette maison plus particulièrement. Deuxièmement, son cœur sacré. Troisièmement, Jésus enfant. Il faut que vous ayez toute la simplicité de l'enfant dans vos rapports avec lui. » Quelques jours plus tard, une autre mère, décédée depuis 18 mois, apparaît à son ancienne fille et lui confirme le don des saintes plaies. La visitation avait déjà une grande richesse, mais elle n'était pas complète. Voilà pourquoi est heureux le jour où j'ai quitté la terre, parce que dès ce jour, au lieu d'avoir seulement le cœur sacré de notre Seigneur, vous aurez toute la sainte humanité, c'est-à-dire ses sacrées plaies. J'ai demandé cette grâce pour vous. Et saint François de Sales, ça vous intéresse aussi, puisqu'il est votre patron, l'évêque de Genève, fondateur donc de la visitation, apparaissait très souvent à Sainte Marie-Marthe, la sœur Marie-Marthe, pour l'instruire. Et un jour qu'ils s'entretenaient ensemble, « Mon père, lui dit-elle avec sa naïveté ordinaire, vous savez que nos sœurs n'ont guère confiance en ce que je dis, parce que je suis bien imparfaite. » Ma fille, répondit saint François de Sales, les vues de Dieu ne sont pas celles de la créature. Dieu donne ses grâces à une misérable qui n'a rien, afin que toutes retournent à lui. Tu dois être bien contente des imperfections que tu as, parce qu'elles cachent les dons de Dieu. Dieu t'a choisi pour compléter la dévotion au Sacré-Cœur. Le cœur a été montré à ma fille Marguerite-Marie, et les saintes plaies à ma petite Marie-Marthe. C'est un besoin pour mon cœur de père que cet honneur soit rendu par vous à Jésus crucifié. Cela fait le complément de la rédemption que Jésus a tant désiré. Mais la Sainte Vierge elle-même vient aussi lui rendre visite. Elle lui dit un jour, « Je donne mon fruit à la visitation comme je l'ai porté à ma cousine Élisabeth. Ton saint fondateur a reproduit les travaux, la douceur et l'humilité de mon fils. » Ta sainte mère de Chantal, ma générosité, en passant par-dessus tous les obstacles pour s'unir à Jésus et faire sa sainte volonté. Ta bienheureuse sœur Marguerite-Marie a reproduit le Sacré-Cœur de mon fils pour le donner au monde. Et toi, ma fille, tu es choisie pour arrêter la justice de Dieu en faisant valoir les mérites de la passion et des saintes plaies de mon unique et bien-aimé fils Jésus. Et comme sœur Marie-Marthe faisait quelques objections, ma fille, reprit la Vierge Immaculée, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ta mère et toi, mon fils, sait bien ce qu'il doit faire. Pour vous, faites seulement jour par jour ce que veut Jésus. Et la Sainte Vierge de multiplier ses invitations, si vous voulez des richesses, il faut aller puiser dans les saintes plaies de mon fils. Toutes les lumières du Saint-Esprit sortent des plaies de Jésus, mais vous recevez ses dons à proportion de votre humilité. Je suis votre mère et je vous dis, allez puiser dans les plaies de mon fils. Il faut que toi, ma fille, tu appliques les plaies de mon fils sur les méchants pour les convertir. Dieu le Père continue à intervenir aussi dans sa vie. Mon enfant, je te donne mon fils pour t'aider tout le long du jour, afin que tu puisses payer tout ce que tu dois à ma justice pour tous. Tu prendras constamment dans les plaies de Jésus de quoi payer les dettes des pécheurs. Et la communauté de la Visitation de Chambéry faisait des prières, des processions, pour différentes intentions. Alors Dieu le Père lui dit, « Tout ce que vous me donnez là n'est rien. » Si ce n'est rien, riposte sœur Marie-Marthe, je vous offre alors tout ce que votre fils a fait et souffert pour nous. Ah, reprend le Père éternel, ceci est grand. C'est clair que nous avons là un trésor depuis que Jésus est venu sur la terre et qu'il s'est incarné et qu'il nous a rachetés. Il continue à être présent au milieu de nous et nous avons le trésor des trésors à disposition. C'est ça qu'il faut offrir au Père. C'est les mérites de notre Seigneur. Avec ça, on peut tout obtenir. Moi, je me rappelle, dans mon ministère, il y a quelques années en arrière, j'avais été apporter la Sainte Communion dans une de nos vallées, au fond d'un village, à deux pauvres vieux qui habitaient une pauvre maison, vraiment. Je dirais, plus pauvre qu'un Mayen au sommet des montagnes, chez nous. C'était pourtant dans un village. Et quand je suis arrivé dans la maison avec le Saint-Sacrement, j'ai vu ces deux pauvres vieux là, à moitié malades, à moitié morts presque. Recevoir Jésus avec tant de foi, tant de reconnaissance, j'ai vraiment été ému. Je les ai confessés d'abord, puis on se prédonnait la Sainte Communion. Je crois qu'il devait laisser l'onction à l'un des deux en tout cas, qui n'a pas tardé à mourir. Et après que j'ai eu donné la Sainte Communion, le mari est parti tout fort dans une action de grâce. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Une action de grâce, les mots les sortaient, il n'y avait pas besoin de livre. Tout était basé sur les saintes plaies. Moi, je suis resté là à écouter. Je n'ai plus pu dire un mot. Je n'aurais jamais pensé qu'un pauvre vieillard comme ça savait de si belles prières. Et c'était des prières sur l'essentiel. Ce n'était pas du tout du blablabla. C'était droit, centré, 6 heures. Et je me suis toujours rappelé cet exemple. Et je me suis dit, oui, au fond, je lui ai apporté la Sainte Communion, je lui ai apporté le trésor des trésors. Pour lui, ce n'était pas l'argent, le confort, le fauteuil, la télé, la belle vie qui comptait, c'était Jésus. Il habitait à côté de l'église du village. Plus la peine d'aller, me disait-il. Il n'y a plus rien. Il n'est plus là. Notre Seigneur n'est plus là. Il n'avait pas lu beaucoup de livres, mais il sentait. Il sentait ce vide dans les églises. Quel vide? Le vide de notre... Il n'y a plus notre Seigneur. À quoi ça sert, les murs? De même de nos plus belles cathédrales basiliques. S'il n'est plus lui, les églises deviennent des trésors. Je lisais l'autre jour dans une revue que le cardinal de Paris avait été obligé de prendre des mesures parce que à Notre-Dame, à Paris, défile chaque jour une armée de touristes de tout pays, de tout continent, des Japonais, enfin vous voyez, qui arrivent là, s'ils voient qu'il y a une messe, ils vont communier sans trop savoir ce que c'est. Puis après, ils rejettent l'hostie, d'autant qu'ils la reçoivent dans la main. comme tous les autres. Alors il a dû mettre une équipe spéciale pour ramasser les hosties. Le cardinal de Paris. Parce qu'il y a des hosties qui traînent partout. Ces touristes-là, souvent, par exemple les Japonais, sont des païens. Je ne sais pas ce que c'est. Ils voient les autres aller, ils vont. C'est le trésor des trésors qui est jeté aux orties. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris, du reste, pour voir ça. Et Jésus lui disait souvent à Sœur Marie-Mathe, je t'ai choisi pour réveiller la dévotion à ma sainte passion dans les temps malheureux où vous vivez. Qu'est-ce qu'il dirait 100 ans plus tard? Puis lui montrant ses saintes plaies comme un livre où il veut lui apprendre à lire, à elle qui ne sait pas lire. Le bon maître ajoute, ne bouge pas les yeux de dessus ce livre, et tu en apprendras plus que les plus grands savants. La prière aux saintes plaies comprend tout. Une autre fois, Jésus lui apparaît, ouvrant son cœur sacré. J'ai choisi ma fidèle servante Marguerite Marie pour faire connaître mon divin cœur, et ma petite Marie-Marthe pour insinuer la dévotion à mes autres plaies. Mes plaies vous sauveront infailliblement. Elles sauveront le monde. Ma fille, le monde sera plus ou moins troublé suivant que tu auras fait ta tâche. Tu es choisi pour satisfaire ma justice. Enfermé dans ta clôture, tu dois vivre ici-bas comme l'on vit au ciel, m'aimer, me prier sans cesse par mes plaies pour apaiser ma vengeance. Je veux que par cette dévotion, non seulement les âmes avec lesquelles tu vis deviennent saintes, mais beaucoup d'autres encore. Un jour, je te demanderai compte si tu as bien pris dans ce trésor pour toutes mes créatures. Je t'ai choisi pour faire valoir les mérites de ma sainte passion pour tous, et je veux que tu sois toujours caché. À moi de te faire connaître plus tard que c'est par ce moyen que le monde sera sauvé et par les mains aussi de ma mère immaculée. Alors vous voyez, le motif profond du reste de cette dévotion aux saintes plaies, c'est, comme je vous l'ai dit, ce trésor qui est à notre disposition, c'est quelque chose de vivant. Des fois on pense à notre Seigneur, à sa passion comme à une chose du passé. C'est vrai, c'est un événement du passé, il y a 2000 ans. Mais notre Seigneur n'est pas une relique, il est toujours vivant, il a voulu rester parmi nous, et son sacrifice est renouvelé d'une façon non sanglante, mais il est toujours là, sans cesse intercédant pour nous auprès du Père, sans cesse s'immolant, se donnant, se sacrifiant, et pour que les âmes soient sanctifiées et soient sauvées. Et ce trésor, eh bien, souvent, nous passons à côté. Nous courons après 36 choses dans la vie. Il y a des gens qui passent tout leur temps, toute leur vie, à s'amuser. À des bricoles, de rien du tout. Et ils arriveront devant le juge en disant, on ne savait pas que c'était ça, l'important dans la vie. Ils auront tout fait, sauf ce qu'il fallait faire. Que de grâces qui seront gaspillées. Ma fille reconnaît bien le trésor du monde. Le monde ne veut pas le connaître. Je veux que tu les vois ainsi, afin que tu comprennes mieux ce que j'ai fait en venant souffrir pour toi. Chaque fois que vous offrez à mon Père les mérites de mes divines plaies, vous gagnez une fortune immense. Vous êtes semblable à celui qui trouverait dans la terre un grand trésor. Mais comme vous ne pouvez pas conserver cette fortune, Dieu la reprend, et ma divine mère aussi, pour vous la rendre au moment de la mort, et en appliquer les mérites aux âmes qui en ont besoin. Car vous devez faire valoir la fortune de mes saintes plaies. Il ne faut pas rester pauvre, parce que votre Père est bien riche. Votre richesse, c'est ma sainte passion. Il ne faut pas vous en écarter, il faut que vous puisiez constamment dans le trésor de ma passion et dans les trous de mes plaies sacrées. Celui qui est dans le besoin qu'il vienne ici, c'est le trésor et la richesse. L'une de mes créatures m'a trahi. Et vendu. Elle m'a trahi et a vendu mon sang. Mais vous pouvez si facilement le racheter goutte à goutte pour purifier la terre. C'est allusion à Judas qui a vendu Jésus pour de l'argent. Terrible drame que celui de Judas qui se renouvelle aujourd'hui à de multiples exemplaires. Judas, c'était un apôtre. Les évêques aujourd'hui sont des apôtres. Que de drames dans l'épiscopat catholique aujourd'hui. quelle responsabilité au niveau précisément du précieux sang, de la Sainte Messe, de la croix de Jésus. Et on peut dire que si la Providence n'avait pas suscité Mgr Lefebvre, c'était par terre. Le saint sacrifice de la messe aurait été liquidé. Mgr Lefebvre n'aurait fait que ça, sauvegarder la Sainte Messe et fabriquer des prêtres pour continuer cela, on lui devrait une reconnaissance éternelle. « Votre vie, disait Jésus, n'est pas de ce monde. Enlevez les plaies de Jésus et vous deviendrez terrestre. Vous êtes trop matériel pour comprendre toute l'étendue des grâces que vous recevez par leur mérite. Vous ne regardez pas assez le soleil dans sa plénitude, et mes prêtres eux-mêmes ne montrent pas assez le crucifix. Je veux que l'on m'honore tout entier. Il ne faut pas craindre de montrer mes plaies aux âmes. Le chemin de mes plaies est si simple et si facile pour aller au ciel. » Et c'est vrai, combien de prêtres ne montrent plus le crucifix. Ils montrent le monde. Et on a presque parfois peur de parler de ces choses-là, et pourtant, c'est la grande réalité. C'est le sacrifice du Christ qui sauve le monde. Désignant un groupe de séraphins qui se pressent autour de l'autel pendant la Sainte Messe, pendant qu'on célèbre la Messe, les anges sont là. Votre Seigneur ne vient jamais tout seul, il est accompagné, il est le roi. Il est accompagné de sa très sainte mère, des anges, ils sont tous là. On ne les voit pas, ce sont des esprits, mais ils sont là. Ils contemplent la beauté, la sainteté de Dieu. Ils admirent, ils adorent, ils ne peuvent pas imiter. Quant à vous, il faut surtout contempler les souffrances de Jésus pour vous conformer à lui. Il faut venir à lui plaire avec des cœurs bien chauds, bien ardents, et faire avec grande ferveur les aspirations pour obtenir les grâces que vous sollicitez. Mes saintes plaies soutiennent le monde. Il faut me demander l'affermissement dans l'amour de mes plaies, parce qu'elles sont la source de toutes les grâces. Il faut souvent les invoquer, y porter le prochain, il faut en parler et y revenir fréquemment, afin d'en imprimer la dévotion dans les âmes. Il faudra longtemps pour établir cette dévotion, travaillez-y avec courage. Je passe, bien sûr, je ne veux pas tout vous donner. Notre Seigneur insiste aussi beaucoup sur la couronne d'épines. Ma couronne d'épines m'a fait plus souffrir que toutes mes autres plaies. Elle a été ma plus cruelle souffrance après le jardin des oliviers. Si vous contemplez ma couronne d'épines sur la terre, vous serez un jour ma couronne de gloire au ciel. Et alors, bien sûr, il insiste aussi sur la plaie du Sacré-Cœur, du côté, n'est-ce pas ? C'est de cette plaie-là qu'est sortie l'Église, que sont sortis les sacrements. Tout vient du cœur de Jésus. Et je passe. Et quelles sont alors les promesses que notre Seigneur fait au sujet de cette dévotion ? J'accorderai tout ce que l'on me demandera par l'invocation aux saintes plaies. Vous obtiendrez tout, parce que c'est le mérite de mon sang qui est d'un prix infini. Avec mes plaies et mon cœur divin, vous pouvez tout obtenir. Mes plaies répareront vos plaies. Ceux qui les honorent recevront une vraie connaissance de Jésus-Christ. En les méditant, tu trouveras toujours un nouvel amour. Mes plaies couvriront toutes tes fautes. En les offrant pour la conversion des pécheurs, encore que les pécheurs ne se convertiraient point, vous aurez devant Dieu le même mérite que s'ils s'étaient convertis. Lorsque vous avez quelque peine, quelque chose à souffrir, il faut vite la porter dans mes plaies. Il faut souvent répéter auprès des malades cette aspiration, « Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Cette prière soulagera l'âme et le corps. » Les saintes plaies ont une efficacité merveilleuse pour la conversion des pécheurs. Le pécheur qui dira la prière suivante, « Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes », obtiendra sa conversion. Ben oui, parce que le pécheur qui dit ça sincèrement, il ne peut pas ne pas recevoir, il s'ouvre à la grâce. Pourquoi le pécheur ne se convertit pas? Parce qu'il reste fermé. Dès qu'il s'ouvre à la grâce, même si c'est un très grand pécheur, le bon larron sur la croix, il est à quelques minutes de la mort, à côté de quelqu'un qui meurt comme lui crucifié, il se rend compte que Jésus, mourant, a des sentiments qui sont étonnants. Il se rend compte qu'il y a une force terrible en lui. Il se tourne vers lui, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Il reçoit le pardon. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Non seulement il reçoit le pardon, mais il reçoit le paradis le jour même. C'est ça le cœur de Jésus. La grâce qu'il faut demander, c'est que les pécheurs se tournent humblement vers Jésus. Et Jésus, alors, laisse jouer sa miséricorde. Mes saintes plaies vous sauveront infailliblement, elles sauveront le monde. Vous n'êtes rien par vous-même, mais votre âme unie à Jésus devient puissante. Elle peut même faire plusieurs choses à la fois, mériter et obtenir pour tous les besoins, sans qu'il soit nécessaire de rien particulariser. Il y avait à ce moment-là une situation politique un peu difficile, et la mère supérieure avait fait des neuvaines spéciales aux saintes plaies, et Jésus lui disait à Sœur Marie-Marthe, « J'aime tant ta communauté qu'il ne lui arrivera pas de mal. Que ta mère ne s'arrête pas aux nouvelles du temps, car souvent les nouvelles du dehors sont fausses. Ma parole seule est vraie. Je vous le dis, vous n'avez rien à craindre. Si vous laissiez la prière, alors oui, vous auriez à craindre. Ce chapelet de la miséricorde fait contrepoids à ma justice, il arrête ma vengeance. » Alors ces saintes plaies sont aussi très efficaces pour l'Église, et ça nous intéresse beaucoup cela. « Ma fille, il faut bien faire ta charge, qui est d'offrir mes divines plaies à mon Père éternel, parce que de là doit venir le triomphe de l'Église, lequel passera par ma Mère Immaculée. » On a la clé. Triomphe de l'Église va venir par les saintes plaies de notre Seigneur et la Vierge Immaculée. On a là exactement la reproduction de la vision de saint Jean Bosco. Vous vous rappelez, il avait vu au siècle dernier la barque de l'Église être attaquée dans un océan déchaîné par des navires ennemis et qui l'assaillaient de toutes parts et qui arrivaient finalement à la couler. Quand tout d'un coup, sur la mer, se sont dressées deux colonnes, l'une surmontée de l'hostie et l'autre surmontée de la Vierge Immaculée. Et le pape, qui était à la tête de cette barque, a dirigé la barque entre ces deux colonnes et ce fut la paix, immédiatement le calme, la victoire. Et ça, c'est l'hostie, c'est la messe, c'est le sacrifice du Christ. Ce sont les mérites infinis des saintes plaies, le trésor des trésors, autour duquel toutes les églises ont été bâties. Vous êtes aussi dans une église où le tabernacle est au centre. D'ailleurs, dans les églises modernes, aujourd'hui, on a mis de côté. On a mis de côté le trésor. Vous mettez quoi devant? L'homme. Mais on ne va pas aller avec l'homme. Et de l'autre côté, la Vierge Immaculée, le rosaire, Notre-Dame, celle qui écrase la tête du serpent infernal, celle qui combat contre le dragon, et celle qui a dit à Fatima, entre autres, « Mon cœur immaculé triomphera. » Et cette crise de l'Église ne pourra être vaincue que par ces deux choses, que par la Sainte Messe et la Très Sainte Vierge, que par notre Seigneur et Marie. Et encore une chose intéressante, Sœur Marie-Marthe demandait souvent à Jésus de couvrir de sa protection de ses saintes plaies le pape. Et cette prière plaisait beaucoup à notre Seigneur. Il fit voir à notre sœur que la grâce surabondait sur le très saint Père Pie IX à l'époque et que les prières faites par la communauté y contribuaient grandement. Il n'y a pas d'époque dans l'histoire de l'Église qui exigerait plus l'utilisation de l'infaillibilité pontificale, du pouvoir de Pierre depuis toutes ces années du concile, de l'après-concile. Pierre a laissé son pouvoir aux mains de la collégialité. On peut dire que le pouvoir pontifical n'est plus exercé. C'est qu'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là aujourd'hui qui sont bien étranges et qui sont certainement le résultat de l'action de Satan dans les plus hauts niveaux de l'Église. Si bien qu'on a, je vous le disais, je crois, ce matin, une réelle imposture. des tas de gens sont complètement trompés au niveau de l'obéissance au pape, ils finissent par désobéir à Dieu, à tout ce que Dieu et l'Église ont commandé par les papes à travers les siècles. Et alors il faut mettre fin une fois à cette imposture. Mais comment faire? Je crois qu'un des moyens, c'est justement celui qui nous a recommandé là, l'offrande des saintes plaies, l'offrande des mérites infinis de la passion et de la mort de Jésus, et la prière à la Vierge Immaculée. C'est ça qui va permettre un jour le rétablissement du pouvoir pontifical. Je ne sais pas par quel moyen, ça c'est l'avenir nous le dira, mais je suis certain qu'un jour, le pouvoir du pape sera rétabli et que nous aurons à nouveau l'Église complètement reconstituée à tous les niveaux, au niveau des fidèles, des prêtres, des évêques, des cardinaux et du pape. Mais ce sera le résultat d'une lutte terrible, parce que le diable ne va pas lâcher si facilement maintenant la proie, alors qu'il a réussi à avoir pratiquement le pouvoir sur tout dans l'Église. Il a rejeté hors des églises ceux qui défendaient vraiment le trésor des trésors. Il ne va pas lâcher si facilement. Comment le faire lâcher? Ce n'est pas par notre mérite personnel, c'est par l'intervention de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu, au Père éternel, de mieux pour cela que les mérites infinis de son Fils, que les saintes plaies de notre Seigneur, pour obtenir cette grâce, que cesse cette imposture. Et les mérites, bien sûr, de la Vierge Immaculée. Il n'y a pas de créature humaine plus parfaite qu'elle. Et les mérites de Marie ont une valeur, bien sûr, immense. Elle est la mère de l'Église. Je vous laisse cette intention-là. Offrez les saintes plaies de Jésus pour l'Église, pour le pape, pour le rétablissement de la papauté. Monseigneur Lefebvre a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a même fait 4 évêques, et il ne peut pas faire plus, il peut en faire plus les évêques s'il veut, si la nécessité se fait sentir, mais il ne peut pas faire un pape, il ne peut pas faire des cardinaux, il ne peut pas aller plus loin dans le rétablissement complet de la hiérarchie. Alors il faut prier pour que le ciel fasse ce qu'on ne peut pas faire nous. Et pour obtenir cette grâce du Père éternel, je crois qu'il faut offrir les saintes plaies. Je connais j'ai un ami en France qui m'a envoyé du reste un de ses petits livres et qui m'a dit je constate depuis quelque temps une intensification parmi les fidèles de la dévotion aux saintes plaies. Et je le considère, disait-il, comme un bon signe, parce que si on a vraiment cette dévotion, on peut obtenir des grâces extraordinaires, des grâces pour résoudre le problème angoissant dans l'Église aujourd'hui. Bien sûr, ces saintes plaies sont très très utiles pour les âmes du purgatoire. Vous pensez bien, vous pouvez offrir ce chapelet des saintes plaies pour les âmes du purgatoire, en délivrer beaucoup. Notre Seigneur dit, le bénéfice des saintes plaies fait descendre les grâces du ciel et monter au ciel les âmes du purgatoire. Chaque fois que vous regarderez le divin crucifié avec un cœur pur, vous obtiendrez la délivrance de 5 âmes du purgatoire, une à chaque source. Vous obtiendrez aussi, en faisant le chemin de la croix, si votre cœur est bien pur et bien détaché, la même faveur à chaque station, par le mérite de chacune de mes plaies. Et quand vous offrez mes saintes plaies pour les pécheurs, il ne faut pas oublier de le faire pour les âmes du purgatoire, car il y a peu de personnes qui pensent à leur soulagement. Et maintenant, quand il y a un enterrement, ils les mettent tous au ciel directement. Purgatoire, ils ont fait une croix dessus, l'enfer, 3 croix dessus, pratiquement il n'y a plus que le ciel. Mais entre-temps, le purgatoire existe toujours, puis l'enfer existe toujours. Et ceux qui sont dans l'enfer, ils ne sortent plus jamais, mais ceux qui sont au purgatoire, ils savent qu'ils sortiront un jour, mais c'est long et pénible, et plus beaucoup pensent à les aider. Comme elles ne peuvent plus rien pour elles, ils sont obligés d'attendre. Alors il faudrait aussi avoir la charité d'offrir les saintes plaies pour les âmes du purgatoire. Une religieuse de la même congrégation que Sœur Marie-Marthe, la Visitation donc, lui apparut un jour, après sa mort, toute glorieuse. « Je croyais bien faire toutes mes actions purement pour Dieu, et lorsqu'elles m'ont été montrées, je les ai vues toutes remplies de mouvements naturels. C'est la confiance que j'ai eue aux saintes plaies de Jésus les derniers jours de ma vie qui a fait ma perfection. Ah, qu'il fait bon mourir en passant par les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. En quelques jours, elle avait réussi à se parfaire grâce à la dévotion aux saintes plaies. Voilà, je passe un peu là-dessus, j'ai été un petit peu trop long sûrement, mais j'ai pensé que, puisque nous étions entrés aujourd'hui dans cette quinzaine de la Passion, il était utile de nous rappeler cette dévotion. Vous savez qu'elle n'est peut-être pas tellement connue, tombée peut-être en désuétude, mais je vous encourage à la reprendre. Et si vous voulez, pour terminer, nous allons faire l'exercice pratique. Nous allons dire ensemble le chapelet des saintes plaies de notre Seigneur, en appliquant ces mérites-là pour l'Église, particulièrement pour cette question du pape, en demandant la grâce au Père éternel de mettre bientôt fin à cette imposture et de remettre dans l'Église les choses et les personnes à leur véritable place. On se met à genoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez-nous miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu fort, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le monde. Amen. Grâce, miséricorde, ô mon Jésus, pendant les dangers présents, couvrez-nous de votre sang précieux. Amen. Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Faites-nous miséricorde, nous vous en conjurons. Mon Jésus, pardon et miséricorde. 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 Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde. 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 Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde. 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 Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde. 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 Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde. 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 Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes entrés donc dans le temps de la Passion. Et l'Église va nous rappeler les souffrances et la mort du Christ sur la croix. À cause de quoi ? À cause de nos péchés. Nous sommes les responsables de ce drame du calvaire. Alors, mes bien chers frères, il faut que nous entrions dans ce temps de la Passion avec une réflexion sérieuse. Quel est le motif principal qui fait que, vous l'avez senti, je pense, en écoutant la lecture de l'Évangile, l'étau se resserre sur Jésus et la haine devient de plus en plus implacable contre lui, et cela de la part de ceux qui auraient dû l'écouter à genoux, de ceux qui auraient dû être heureux de voir Jésus parler ainsi et opérer tant de merveilles dans le peuple, de ceux qui étaient aux responsabilités religieuses, de ceux qui connaissaient la Bible jusqu'au bout des doigts. Pourquoi une telle haine, un tel rejet de Jésus? Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cette idée que Jésus était Dieu. Jésus, d'après eux, n'est pas le Messie, il est le fils du charpentier Joseph. Il se dit Dieu, ça peut être qu'un possédé du diable. Et alors, durant ces 15 jours, on sent cette haine monter toujours plus. Finalement, ça sera la crucifixion. Oh, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date. Toute la vie de Jésus a été marquée par la persécution. Saint Jean nous dit dans le dernier évangile, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et le vieillard Siméon disait, quand Jésus avait 40 jours, il sera un signe de contradiction. Il vient pour la chute ou pour le relèvement de beaucoup en Israël. Et Jésus est à peine né que le roi Hérode voyait déjà en lui un rival futur et il a voulu l'éliminer physiquement en massacrant tous les enfants de Bethléem et des environs en dessous de 2 ans. Et plus tard, quand il commença sa vie publique, certes par sa prédication et surtout par sa bonté et sa miséricorde à l'égard des plus pauvres, des malheureux, des malades, des pécheurs, Jésus s'attira les foules, il s'attira la sympathie parce que les gens sentaient qu'il y avait en lui une force. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, disait-on. C'était la force de Dieu, parce qu'il était Dieu. Mais en même temps, partout où il passait, il suscitait la haine, la jalousie, surtout des scribes et des pharisiens, qui ne pouvaient pas supporter que les gens couraient après lui. Un jour, Jésus arrive à Nazareth, dans son village. Il entre dans la synagogue, le chef de la synagogue le prie d'adresser la parole, il déroule le rouleau de la loi et il lit ce passage. « L'Esprit Saint m'a consacré pour aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Mais il explique tout ce passage du prophète en disant « Aujourd'hui, ces paroles se réalisent devant vous. » Je suis consacré par l'Esprit Saint pour aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ce fut un tollé général dans la synagogue. Les gens se levèrent, crièrent, se jetèrent sur Jésus, le jetèrent hors de la synagogue et le forcèrent à aller jusque sur un rocher qui surplombait le village pour le jeter en bas. Il blasphème, il se dit Dieu. Pensez bien qui il est, le fils du charpentier. Jésus, bien sûr, son heure n'était pas encore venue, se débarrassa de ses adversaires en passant au milieu d'eux sans que personne pût le toucher. Mais il déclara quand même, un prophète n'est jamais bien reçu dans son pays. Alors au fur et à mesure que Jésus approche de la passion, l'étau se resserre et on cherche par tous les moyens à le piéger. Puis on n'arrive pas. Juste avant le passage de l'évangile d'aujourd'hui, les scribes lui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. D'après la loi, elle doit mourir lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Et Jésus dit rien. Il les écoute, les regarde, il semble écrire sur le sol, et tout d'un coup, les regardant bien en face, fouillant leur conscience avec son regard divin, il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et personne n'a osé prendre un caillou parce qu'ils se sont sentis dévisagés. Ils ont senti que Jésus voyait, connaissait tous leurs péchés. Et ils sont partis tous, à commencer par les plus vieux. Et Jésus est resté seul avec cette femme. Alors, femme, personne t'a condamné? Non, personne. Eh bien, moi non plus. Je ne te condamne pas. Mais désormais, ne pêche plus. Voilà Jésus face à la misère du monde, face à cette femme pécheresse. Il la relève. Voilà Jésus face à la méchanceté de ceux qui arboraient un visage pur de l'extérieur, alors qu'en réalité, ils étaient remplis de péchés, encore plus pécheurs que cette femme. Et alors on arrive à ce passage de l'évangile d'aujourd'hui, c'était au temple, et là il y a une altercation violente entre les pharisiens et Jésus, toujours pour le même problème. Parce qu'il se dit Dieu, il dit qu'il est uni à son Père, il dit qu'il a été envoyé par son Père sur la terre, et que sa doctrine est authentique. Et donc, par conséquent, il faut l'écouter. Il y va de leur salut. Et les pharisiens et les scribes ne veulent pas entendre pareille doctrine. Et alors Jésus lance cette phrase que vous et moi, nous ne pouvons pas lancer. Qui d'entre vous pourra me convaincre de péché? Jésus ose dire cela, parce qu'effectivement, il n'y a pas de péché en lui. Personne ne peut prouver qu'il y a du péché ni dans sa conduite, ni dans sa doctrine. Il n'y a aucune erreur. Jésus mène une vie très sainte. Et vous pensez, si ses adversaires avaient pu le surprendre dans une mauvaise conduite, comme ils auraient profité. Jésus enseigne une doctrine absolument sûre et certaine. Il n'y a aucune erreur. Et malgré tous les pièges qu'ils lui ont tendus, ils n'ont jamais réussi à le prendre en défaut. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors, si Jésus n'est pas la pas de péché, si sa doctrine est juste, pourquoi ils ne l'écoutent pas? Parce qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils sont endurcis. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint, c'est voir la vérité en face et pas s'incliner. Et nous lisons, nous les prêtres dans le bréviaire, pendant ce temps de la Passion, cette parole. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Cette voix de Dieu, nous l'entendons, il faut déboucher les oreilles, il faut qu'elle pénètre en nous, qu'elle trouve en nous un terrain bien disposé, et que nous la mettions en pratique afin qu'elle porte du fruit. Autrement, nous sommes des endurcis, et nous résistons à la grâce, et nous faisons comme ces scribes et ces pharisiens qui ne veulent pas croire. Alors Jésus, pour essayer justement d'ouvrir leur cœur, de faire cesser cet endurcissement, leur dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. » Alors là, les Juifs se disent cette fois-ci, il en a trop dit. On a la preuve que c'est un possédé, c'est un samaritain. Un samaritain, c'était ceux qui s'étaient séparés des Juifs, qui avaient mélangé la doctrine juive avec la doctrine païenne. Ils avaient fait schisme, si vous voulez. C'était des apostats. On traite Jésus de samaritain pour dire que c'est un novateur, un schismatique, quelqu'un qui mélange la loi avec ses idées à lui, ou encore plus un possédé du démon. Alors, Abraham est mort. Tu dis que si quelqu'un garde ta parole, il ne connaîtra pas la mort. Serais-tu plus grand qu'Abraham, plus grand que les prophètes qui sont morts? Mais qui donc prétends-tu être? Et alors Jésus leur explique qu'ils ne connaissent pas le Père et qu'Abraham, lui, s'est réjoui de sa venue. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'était déclarer sa divinité. Démontrer que Jésus est au-dessus du temps, au-dessus des siècles, qu'il est le Dieu, qu'il est éternel. Et donc, en tant que Dieu, il était bien avant Abraham. Mais en tant qu'homme, il est venu sur la terre, il a pris naissance. Et Abraham, il était où à ce moment-là? Dans les limbes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait la libération. Il attendait que le ciel soit ouvert. Et alors, Abraham s'est réjoui à la pensée que Jésus était descendu sur la terre pour précisément ouvrir le ciel. Jésus parle à monde clairement qu'il est Dieu. Et ce sera le motif de sa condamnation. Eh bien, chers frères, c'est terrible de voir cet endurcissement du cœur des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors les Juifs? Ils ont pris des cailloux et ils veulent lapider Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas son heure, se faufile parmi eux sans mal. L'heure va venir, l'heure des ténèbres. Où Jésus va alors assumer pleinement et volontairement la mort. Et l'occasion sera fournie par un miracle extraordinaire que Jésus va faire quelques jours avant de mourir. À Béthanie, Lazare venait de mourir, il était enterré depuis 4 jours, Jésus n'était pas là au moment de la mort. Quand il arrive, ses sœurs semblent lui reprocher, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Finalement, Jésus va au tombeau, se fait enlever la pierre. « Mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'on l'a mis, » dit l'une de ses sœurs. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et devant cette foule, car Lazare était un homme considéré, aimé par les Juifs et par les Romains, un homme puissant, influent, beaucoup de gens étaient là. Devant cette foule, Jésus va ressusciter un mort enterré depuis 4 jours. Et ça, c'est la preuve la plus parfaite de sa puissance divine. Et à la parole de Jésus, Lazare sort du tombeau. Tout le monde aurait dû s'incliner. Le bon peuple, du reste, s'est incliné, a crié son enthousiasme. On n'a jamais vu ça. Mais les scribes et les pharisiens s'endurcissent encore plus. Cette fois, il en fait trop, il faut qu'on se débarrasse de lui. Et ils vont saisir cette occasion pour le faire arrêter par l'un de ses propres amis, par Judas, qui va trahir Jésus pour de l'argent et qui va le leur livrer. Et ça avait bien, chers frères, ce mystère de la passion du Christ. Et Jésus alors va s'offrir volontairement, il est venu pour ça. Il va être l'agneau qui efface les péchés du monde. Il va être immolé sur la croix. Tout à l'heure, dans l'Épître, saint Paul nous a rappelé qu'au temple, il y avait des sacrifices d'animaux. On aspergeait avec le sang de ces animaux le peuple pour qu'il soit purifié. Tout cela va être balancé et remplacé par le sang précieux de Jésus. Jésus va s'immoler sur la croix, volontairement. Alors il va être écrasé par tous les péchés, par nos propres péchés à nous. Et il va expier tout cela à notre place, pour nous mériter le salut, pour nous ouvrir le ciel, pour réconcilier la terre avec le ciel, les hommes avec Dieu. Il va être le pontife, le médiateur, celui qui, dressé entre ciel et terre, va nous réconcilier avec Dieu. C'est le grand sacrifice du Vendredi Saint, le sacrifice qui va se renouveler parce que Jésus l'a voulu jusqu'à la fin du monde. C'est la messe à laquelle vous êtes là maintenant, présent, et la messe. Et vous êtes aspergés par le sang précieux de Jésus. Alors, mes bien chers frères, il faut endurcir nos cœurs, ouvrir nos cœurs à la grâce. Quelle grâce que la messe! Jamais vous pourrez assez remercier Jésus de la grâce de la messe. D'avoir ici, dans cette ville de Genève, la messe, la vraie messe catholique. Vous venez de fêter les 10 ans de cet oratoire. Que de grâce en 10 ans! Saint Joseph vous a donné le lieu, il vous a trouvé le local, la chapelle, cette belle église. Mais c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui continue à s'immoler, à s'offrir en victime à son Père, pour que vous puissiez vivre de sa vie et ainsi ne pas connaître la mort. Mais me direz-vous, comme les Juifs, on va mourir. Ben oui que vous allez mourir. On va tous connaître la mort corporelle. Mais en suivant le Christ, nous ne connaîtrons pas la mort éternelle. La mort corporelle ne sera qu'un passage qui va nous conduire à la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et tout ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous donne cette certitude du salut. Cette espérance que d'ici quelque temps, nous serons avec lui dans le ciel. Nous aurons occupé la place qu'il est allé nous préparer. Parce que maintenant, ça ne dépend que de nous. Lui nous a ouvert la route. Nous n'avons plus qu'à croire et qu'à suivre cette route, qu'à imiter notre Seigneur. Alors, mes bien chers frères, appréciez la Sainte Messe et tous ces prochains jours, l'Église nous invitera à des cérémonies qui nous rappelleront toujours mieux encore le don que Jésus a fait de lui-même pour nous. Alors venez vous ressourcer et là vous trouverez la force pour vos âmes. Vous savez que le diable aujourd'hui a attaqué justement la messe pour couper la source et habilement il a altéré la messe, il l'a changée en une fête, en un repas fraternel, en éliminant justement l'aspect du sacrifice. Qui parle encore tellement de la croix, du sang précieux de Jésus? Qui parle encore tellement du péché, des conséquences éternelles du péché, de l'enfer? On a évacué toutes ces réalités-là pour faire une religion de l'homme. Mais on n'est pas sauvé par cela. L'homme ne peut pas être sauvé par l'homme. L'homme ne peut être sauvé que par Dieu. Et Dieu s'est fait homme, précisément, tout en restant Dieu, pour nous sauver. Et alors, il n'y a que le Christ qui est Dieu et homme. Il n'y a que lui. Et encore aujourd'hui, vous avez dans le monde, hélas dans l'Église, des gens qui ne veulent pas que Jésus règne. Des gens qui ne veulent pas se soumettre à la loi divine. Qui veulent organiser leur vie comme ils s'entendent. En dehors de Dieu. En dehors de sa loi. Mais ils vont à la ruine. À la ruine éternelle. Il n'y a que lui. Et qui peut nous conduire à la vie éternelle. Il est la porte. Il est le bon pasteur. Celui qui donne sa vie pour ses brebis, nous devons le suivre avec une grande reconnaissance. Alors, mes bien chers frères, je peux que vous encourager beaucoup à profiter de tout ce qu'on vous donne dans ce magnifique oratoire, dans tout ce que Jésus vous donne, parce que nous, les prêtres, nous ne sommes que les ministres du Christ. Tout à l'heure, je vais redire ces paroles, prenez, mangez, ceci est mon corps, prenez, buvez, ceci est mon sang. Mais ce n'est pas mon corps à moi, c'est Jésus. Le prêtre ne fait que prêter son corps, ses gestes, ses paroles. Mais c'est lui qui est là. Et à travers le prêtre, vous devez voir notre Seigneur célébrant la messe. Faites abstraction du prêtre humain. C'est Jésus qui est là. C'est lui qui renouvelle le sacrifice de son sang et qui vous donne de pouvoir puiser dans les mérites infinis de sa passion. Quelle grâce, mes bien chers frères. Et puissions-nous ne jamais oublier cela. Demandons à la Très Sainte Vierge, le vendredi prochain, de célébrer la compassion, de nous faire compatir un peu mieux aux souffrances du Christ. Elle était au pied de la croix, elle a réalisé le drame du calvaire, et elle s'est unie au sacrifice de son Fils. Elle s'est livrée elle-même, et c'est là, au pied de la croix, qu'elle est devenue notre maman. Elle nous a engendrés à la vie. Elle était la mère du Christ, et elle est devenue là la mère des hommes, notre mère à tous. Alors qu'elle nous donne de compatir un peu mieux aux souffrances du Christ, et surtout de fuir le péché, parce que c'est à cause du péché qu'il a souffert cela, que nous puissions être libérés du péché et mener une vie sainte. Il faut demander à la Sainte Vierge de nous aider à nous sanctifier, de façon à ce que plus jamais nous ne fassions de la peine à son divin Fils. Au contraire, par notre zèle, par notre ferveur, par notre bonne conduite, par notre volonté à écouter toujours et à mettre en pratique la parole de Dieu. Non seulement nous sauvions nous-mêmes, mais nous soyons aussi pour les autres, surtout pour ceux qui ont perdu la foi, qui ne savent plus trop ce qu'il faut croire ou pas croire, qui sont dans une pleine confusion, qui sont trompés. Il y a une imposture terrible aujourd'hui dans l'Église. Des quantités de gens sont complètement trompés. C'est le diable avec le mensonge qui trompe et qui mène toute cette foule sur le chemin de l'enfer. Vous demandez à la Très Sainte Vierge et à Saint Joseph, votre saint patron, de mettre fin à cette imposture pour que les âmes soient à nouveau éclairé, fortifié et nourri par le corps et le sang précieux de Jésus. Courage, mes bien chers frères, confiance, ça viendra. La grâce nous sera donnée un jour. Cette crise prendra fin. Mais il faut tenir. Et vous êtes ici des soldats qui devaient tenir la place de Genève, éclairer les autres. Quand la tourmente aura passé, ils verront que c'était ça. Ils diront, mais imbécile qu'on a été, pourquoi on a laissé ça? Pour courir après les chimères. Mais c'est ça qu'on aurait dû garder. Comme ils ont eu raison, ceux qui ont gardé cela. Eh bien, on va avec eux maintenant. Et ça repartira. Car notre Seigneur, tant de fois, a été mis de côté. Toujours, il est revenu. L'Église, tant de fois, a été considérée comme morte. Toujours, elle est revenue. Et là, les paroles, la vie éternelle, elle ne périra pas. Alors, courage et confiance, mes bien chers. Faites bien ce temps de la Passion en union avec Jésus et sa très sainte Mère. Ainsi soit-il.